Chapitre 13. Madame Louise de France, Locke, Schiff et Graille. La fille aînée du roi attendait son père dans la grande galerie de Lebrun, la même où Louis XIV, en 1683, avait reçu le doge impérial et les quatre sénateurs génois qui venaient implorer le pardon de la République. À l'extrémité de cette galerie, opposée à celle par laquelle le roi venait d'entrer, se trouvaient deux ou trois dames d'honneur qui semblaient consternées. Louis XV arriva au moment où les groupes commençaient à se former dans le vestibule, car la résolution qui semblait avoir été prise le matin même par la princesse commençait à se répandre dans le palais. Madame Louise de France, princesse d'une taille majestueuse et d'une beauté toute royale, mais dont une tristesse inconnue ridait parfois le front pur, Madame Louise de France, disons-nous, imposait à toute la cour, par la pratique des plus austères vertus, ce respect pour les grands pouvoirs de l'État que, depuis 50 ans, on ne savait plus vénérer en France que par intérêt ou par crainte. Il y a plus. Dans ce moment de désaffection générale du peuple pour ses maîtres, on ne disait pas encore tout haut pour ses tyrans, on l'aimait. C'est que sa vertu n'était point farouche. Bien que l'on n'eût jamais parlé hautement d'elle, on se rappelait qu'elle avait un cœur, et chaque jour elle le témoignait par des bienfaits, tandis que les autres ne le montraient que par le scandale. Louis XV craignait sa fille, par la seule raison qu'il l'estimait. Quelquefois même, il en était fier. Aussi était-ce la seule de ses enfants qu'il ménagea dans ses railleries piquantes ou dans ses familiarités triviales. Et tandis qu'il appelait ses trois autres filles, Adélaïde, Victoire et Sophie, Locke, Schiff et Graille, il appelait Louise de France « Madame ». Depuis que le maréchal de Saxe avait emporté au tombeau l'âme des Turennes et des Condés, Marie Leczinska, l'esprit de conduite de la reine Marie-Thérèse, tout se faisait petit autour du trône rapetissé. Alors que Madame Louise, d'un caractère vraiment royal et qui, par comparaison, semblait héroïque, faisait l'orgueil de la couronne de France, qui n'avait plus que cette seule perle fine au milieu de son clinquant et de ses pierres fausses. Nous ne disons pas pour cela que Louis XV aima sa fille. Louis XV, on le sait, n'aimait que lui. Nous affirmons cependant qu'il tenait à elle plus qu'aux autres. En entrant, il vit la princesse seule au milieu de la galerie, appuyée contre une table en incrustation de jaspe sanguin et de lapis-lazuli. Elle était vêtue de noir, ses beaux cheveux sans poudre se cachaient sous la dentelle à double étage. Son front, moins sévère que de coutume, était peut-être plus triste. Elle ne regardait rien autour d'elle. Quelquefois seulement, elle promenait ses yeux mélancoliques sur les portraits des rois de l'Europe, à la tête desquels brillaient ses ancêtres, les rois de France. Le costume noir était l'habit ordinaire des princesses. Il cachait les longues poches que l'on portait encore à cette époque, comme au temps des reines ménagères, et Madame Louise, à leur exemple, gardait à sa ceinture, attachée à un anneau d'or, les nombreuses clés de ses coffres et de ses armoires. Le roi devint fort pensif lorsqu'il vit avec quel silence et surtout avec quelle attention on regardait le résultat de cette scène. Mais la galerie était si longue que, placée aux deux extrémités, les spectateurs ne pouvaient manquer de discrétion pour les acteurs. Ils voyaient, c'était leur droit, ils n'entendaient pas, c'était leur devoir. La princesse fit quelques pas au devant du roi et lui prit la main qu'elle baisa respectueusement. « On dit que vous partez, madame, lui demanda Louis XV, allez-vous donc en Picardie ?»« Non, sire, dit la princesse. Ah, »« Alors je devine, dit le roi, en haussant la voix, vous allez en pèlerinage à Noirmoutier. »« Non, sire, répondit madame Louise, je me retire au couvent des Carmélites de Saint-Denis, dont je puis être abbesse, vous le savez. » Le roi tressaillit, mais son visage resta calme, quoique son cœur fût réellement troublé. « Oh non, dit-il, non, ma fille, vous ne me quitterez point, n'est-ce pas? C'est impossible que vous me quittiez. Mon père, j'ai depuis longtemps décidé cette retraite que votre majesté a bien voulu autoriser. Ne me résistez donc pas, mon père, je vous en supplie. Oui, certes, j'ai donné cette autorisation, mais après avoir combattu longtemps, vous le savez, je l'ai donnée parce que j'espérais toujours qu'au moment de partir, le cœur vous manquerait. Vous ne pouvez pas vous ensevelir dans un cloître, vous, ce sont des mœurs oubliées. On n'entre au couvent que pour des chagrins ou des mécomptes de fortune. La fille du roi de France n'est point pauvre, que je sache, et si elle est malheureuse, personne ne doit le voir. La parole et la pensée du roi s'élevaient à mesure qu'il rentrait plus avant dans ce rôle de roi et de père que jamais l'acteur ne joue mal quand l'orgueil conseille l'un et que le regret inspire l'autre. « Sire, répondit Louise, qui s'apercevait de l'émotion de son père, et que cette émotion, si rare chez l'égoïste Louis XV, touchait à son tour plus profondément qu'elle ne pouvait le faire paraître, sire, n'affaiblissez pas mon âme en me montrant votre tendresse. Mon chagrin n'est point un chagrin vulgaire, voilà pourquoi ma résolution est en deçà des habitudes de notre siècle. » « Vous avez donc des chagrins ?» s'écria le roi avec un éclair de sensibilité. « Des chagrins, toi, pauvre enfant !»« De cruels, d'immenses, sire, répondit Madame Louise. « Et ma fille, que ne le disiez-vous ? Parce que ce sont de ces chagrins qu'une main humaine ne peut guérir, même celle d'un roi, même celle d'un roi, même celle d'un père. Non plus, sire, non plus. » Vous êtes religieuse cependant, vous Louise, et vous puisez de la force dans la religion. Ah, pas encore assez, sire, et je me retire dans un cloître pour en trouver davantage. Dans le silence, Dieu parle au cœur de l'homme, et dans la solitude, l'homme parle au cœur de Dieu. Mais vous faites au Seigneur un sacrifice énorme que rien ne compensera. Le trône de France jette une ombre auguste sur les enfants élevés autour de lui. Cette ombre ne vous suffit-elle pas ? Celle de la cellule est plus profonde encore, mon père, elle rafraîchit le cœur, elle est douce, aux forts comme aux faibles, aux humbles comme aux superbes, aux grands comme aux petits. Est-ce donc quelque danger que vous croyez courir? En ce cas, Louise, le roi est là pour vous défendre. Sire, que Dieu défende d'abord le roi. Je vous le répète, Louise, ne vous laissez égarer par un zèle malentendu. Priez, eh bien, mais non pas priez toujours. Vous, si bonne, vous, si pieuse, qu'avez-vous besoin de tant prier? Jamais je ne prierai assez, ô mon père, jamais je ne prierai assez, ô mon roi, pour écarter tous les malheurs qui vont fondre sur nous. Cette bonté que Dieu m'a donnée, cette pureté que depuis 20 ans je m'efforce de purifier sans cesse, ne sont pas encore, j'en ai peur, la mesure de candeur et d'innocence qu'il faudrait à la victime expiatoire. » Le roi se recula d'un pas et regardant Marie-Louise avec étonnement. « Jamais vous ne m'avez parlé ainsi, dit-il. Vous vous égarez, cher enfant, l'ascétisme vous perd. Oh, sire, n'appelez pas de ce nom mondain le dévouement le plus vrai et surtout le plus nécessaire que jamais sujette ait offert à son roi et fille à son père dans un pressant besoin. » Sire, votre trône dont tout à l'heure vous m'offriez orgueilleusement l'ombre protectrice, sire, votre trône chancelle sous des coups que vous ne sentez pas encore, mais que je devine déjà, moi, quelque chose de profond se creuse sourdement, comme un abîme où peut tout à coup s'engloutir la monarchie. Vous a-t-on jamais dit la vérité, sire ? Marie-Louise regarda autour d'elle pour voir si nul n'était à portée de l'entendre, et sentant tout le monde à distance, elle continua. « Eh bien, je la sais, moi, moi qui sous l'habit d'une sœur de la miséricorde ai 20 fois visité les rues sombres, les mansardes affamées, les carrefours pleins de gémissements. Eh bien, dans ces rues, dans ces carrefours, dans ces mansardes, sire, on meurt de faim et de froid l'hiver, de soif et de chaud l'été. » Les campagnes que vous ne voyez pas, vous, sire, car vous allez de Versailles à Marly, et de Marly à Versailles seulement, les campagnes n'ont plus de grains. Je ne dirai pas pour nourrir les peuples, mais pour ensemencer les sillons, qui, maudits par je ne sais quelle puissance ennemie, dévorent et ne rentrent pas. Tous ces gens qui manquent de pain grondent sourdement, car des rumeurs vagues et inconnues passent dans l'air, dans le crépuscule, dans la nuit, qui leur parlent de fer, de chaîne, de tyrannie. Et à ces paroles, ils se réveillent, cessent de se plaindre et commencent à gronder. De leur côté, les parlements demandent leur roi de remontrance, c'est-à-dire le droit de vous dire tout haut ce qu'ils disent tout bas. « Roi, tu nous perds, sauve-nous, ou nous nous sauvons seuls. » Les gens de guerre creusent de leur épée inutile une terre où germe la liberté que les encyclopédistes y ont jetée à pleine main. Les écrivains, comment cela se fait-il, si ce n'est que les yeux des hommes commencent à voir les choses qu'ils ne voyaient pas? Les écrivains savent ce que nous faisons de mal, en même temps que nous le faisons, et l'apprennent nos peuples qui froncent le sourcil maintenant chaque fois qu'ils voient passer ses maîtres. Votre Majesté marie son fils. Autrefois, lorsque la reine Anne d'Autriche maria le sien, la ville de Paris fit des présents à la princesse Marie-Thérèse. Aujourd'hui, au contraire, non seulement la ville n'offre rien, Mais encore, votre majesté a dû forcer les impôts pour payer les carrosses avec lesquelles on conduit une fille de César chez un fils de Saint-Louis. Le clergé est habitué depuis longtemps à ne plus prier Dieu, mais il sent que les terres sont données, les privilèges épuisés, les coffres vides, et il se remet à prier Dieu pour qu'il appelle le bonheur du peuple. Enfin, sire, faut-il que l'on vous dise ce que vous savez bien, ce que vous avez vu, avec tant d'amertume que vous n'en avez parlé à personne? Les rois, nos frères, qui jadis nous jalousaient, les rois, nos frères, se détournent de nous. Vos quatre filles, sire, les quatre filles du roi de France, vos quatre filles n'ont pas été mariées, et il y a 20 princes en Allemagne, 3 en Angleterre, 16 dans les États du Nord, sans compter nos parents, les Bourbons d'Espagne et de Naples, qui nous oublient ou se détournent de nous comme les autres. Peut-être le Turc eût-il voulu de nous si nous n'eussions pas été les filles de rois très chrétiens. Oh, je ne parle pas pour moi, mon père, je ne me plains pas, c'est un état heureux que le mien, puisque me voici libre, puisque je ne suis nécessaire à aucun de ma famille, puisque je vais pouvoir, dans la retraite, dans la méditation, dans la pauvreté, prier Dieu pour qu'il détourne de votre tête et de celle de mon neveu cet effrayant orage que je vois tout là-bas, grondant dans le ciel de l'avenir. Ma fille, mon enfant, dit le roi, tes craintes te font cet avenir pire qu'il n'est. Sire, sire, dit madame Louise, rappelez-vous cette princesse antique, cette prophétesse royale. Elle prédisait, comme moi, à son père et à ses frères, la guerre, la destruction, l'incendie, et son père et ses frères riaient de ses prédictions qui disaient insensées. Ne me traitez pas comme elle, prenez garde, mon père, réfléchissez, ô mon roi. Louis XV croisa ses bras et laissa tomber sa tête sur sa poitrine. « Ma fille, dit-il, vous me parlez sévèrement. Ces malheurs que vous me reprochez sont-ils donc mon ouvrage ? À Dieu ne plaise que je le pense, mais ils sont ceux du temps où nous vivons. Vous êtes entraînés, comme nous tous. Écoutez, sire, comme on applaudit dans les parterres à la moindre allusion contre la royauté. Voyez le soir les groupes joyeux descendre à grand fracas les petits escaliers des entresols quand le grand escalier de marbre est sombre et désert. Sire, le peuple et les courtisans se sont fait des plaisirs à part de nos plaisirs. Ils s'amusent sans nous, ou plutôt, quand nous paraissons où ils s'amusent, nous les attristons. Hélas, continua la princesse avec une adorable mélancolie, hélas, pauvres beaux jeunes gens, pauvres charmantes femmes, aimez, chantez, oubliez, soyez heureux. Je vous gênais ici, tandis que là-bas, je vous servirai. Ici, vous étouffez vos rires joyeux de peur de me déplaire. Là-bas, là-bas, je prierai, oh, je prierai de tout mon cœur pour le roi, pour mes sœurs, pour mes neveux, pour le peuple de France, pour vous tous enfin que j'aime avec l'énergie d'un cœur que nulle passion n'a encore fatigué. Ma fille, dit le roi après un sombre silence, je vous en supplie, ne me quittez pas, en ce moment du moins. Vous venez de me briser le cœur. Louise de France saisit la main de son père et attachant avec amour ses yeux sur la noble physionomie de Louis XV. « Non, dit-elle, non, mon père, pas une heure de plus dans ce palais, non. Il est temps que je prie. Je me sens la force de racheter par mes larmes tous les plaisirs auxquels vous aspirez, vous, encore jeune, vous, qui êtes un bon père, vous, qui savez pardonner. Reste avec nous, Louise, reste avec nous, dit le roi en serrant sa fille dans ses bras. La princesse secoua la tête. « Mon royaume n'est pas de ce monde, » dit-elle tristement et se dégageant de l'embrassement royal. « Adieu, mon père, j'ai dit aujourd'hui des choses qui, depuis 10 ans, me surchargeaient le cœur. Le fardeau m'étouffait. Adieu, je suis contente. Voyez, je souris, je suis heureuse d'aujourd'hui seulement. Je ne regrette rien. Pas même moi, ma fille. Oh, je vous regretterai si je ne devais plus vous voir, mais vous viendrez quelquefois à Saint-Denis. Vous ne m'oublierez pas tout à fait. Oh, jamais, jamais. » « Ne vous attendrissez pas, sire. Ne laissons pas croire que cette séparation soit durable. Mes sœurs n'en savent rien encore, à ce que je crois du moins. Mes femmes seules sont dans la confidence. Depuis 8 jours, je fais tous mes apprêts, et je désire ardemment que le bruit de mon départ ne retentisse qu'après celui des lourdes portes de Saint-Denis. Ce dernier bruit m'empêchera d'entendre l'autre. » Le roi lut dans les yeux de sa fille que son dessein était irrévocable. Il aimait mieux d'ailleurs qu'elle partît, sans bruit. Si madame Louise craignait l'éclat des sanglots pour sa résolution, le roi le craignait bien plus encore pour ses nerfs. Puis il voulait aller à Marly, et trop de douleur à Versailles eût nécessairement fait ajourner le voyage. Enfin, il songeait qu'il ne rencontrerait plus, au sortir de quelque orgie, indigne à la fois du roi et du père, cette figure grave et triste qui lui semblait un reproche de cette insouciante et paresseuse existence qu'il menait. « Qu'il soit donc fait comme tu voudras, mon enfant, dit-il, seulement reçois la bénédiction de ton père que tu as toujours rendu parfaitement heureux. Votre main seulement, que je la baise, sire, et donnez-moi mentalement cette précieuse bénédiction. » C'était pour ceux qui étaient instruits de sa résolution un spectacle grand et solennel que celui de cette noble princesse qui, à chaque pas qu'elle faisait, s'avançait vers ses aïeux qui, du fond de leur cadre d'or, semblaient la remercier de ce qu'elle venait, vivante, les retrouver dans leur sépulcre. À la porte, le roi salua sa fille et revint sur ses pas sans dire un seul mot. La cour le suivit, comme c'était l'étiquette. Le roi se dirigea vers le cabinet des équipages, où il avait l'habitude, avant la chasse ou la promenade, de passer quelques moments pour donner des ordres particuliers au genre de service dont il avait besoin pour le reste de la journée. Au bout de la galerie, il salua les courtisans et leur fit un signe de la main indiquant qu'il voulait être seul. Louis XV, demeuré seul, continua son chemin à travers un corridor sur lequel donnait l'appartement de mesdames. Arrivé devant la porte, fermée par une tapisserie, il s'arrêta un instant et secoua la tête. « Il n'y en avait qu'une bonne, grommela-t-il entre ses dents, et elle vient de partir. » Un éclat de voix répondit à cet axiome passablement désobligeant pour celle qui restait. La tapisserie se releva et Louis XV fut salué par ces paroles que lui adressa en cœur un trio furieux. « Merci, mon père !» Le roi se trouvait au milieu de ses trois autres filles. « Ah, c'est toi, Locke, dit-il s'adressant à l'aînée des trois, c'est-à-dire à Madame Adélaïde. « Ah, ma foi, tant pis, fâche-toi ou ne te fâche pas, j'ai dit la vérité. »« Ah, dit Madame Victoire, vous ne nous avez rien appris de nouveau, sire, et nous savons que vous avez toujours préféré Louise. » « Ah, ma foi, tu as dit là une grande vérité, Chiff. »« Et pourquoi nous préférer Louise ?» demanda d'un ton aigre Madame Sophie. « Parce que Louise ne me tourmente pas, répondit-il avec cette bonhomie, dont, dans ces moments d'égoïsme, Louis XV offrait un type si parfait. « Oh, elle vous tourmentera, soyez tranquille, mon père, » dit Madame Sophie avec un ton d'aigreur qui attira particulièrement sur elle l'attention du roi. « Qu'en sais-tu, Graille ? » dit-il. « Est-ce que Louise, en partant, t'a fait tes confidences à toi ? Cela m'étonnerait, car elle ne t'aime guère. « Oh, ma foi, en tout cas, je ne lui rends bien, » répondit Madame Sophie. « Très bien, dit Louis XV, haïssez-vous, détestez-vous, déchirez-vous, c'est votre affaire, pourvu que vous ne me dérangez pas pour rétablir l'ordre dans le royaume des Amazones, cela m'est égal. Mais je désire savoir en quoi la pauvre Louise doit me tourmenter. »« La pauvre Louise, » dirent ensemble Madame Victoire et Madame Adélaïde, en allongeant les lèvres de deux façons différentes. « En quoi elle doit vous tourmenter ? Eh bien, je vais vous le dire, père. » Louise s'étendit dans un grand fauteuil placé près de la porte, de sorte que la retraite lui restait toujours chose facile. « Parce que Madame Louise, répondit Sophie, est un peu tourmentée du démon qui agitait l'abbesse de Chelles et qu'elle se retire au couvent pour faire des expériences. « Allons, allons, dit Louis XV, pas d'équivoque, je vous prie, sur la vertu de votre sœur. On n'a jamais rien dit au dehors et cependant l'on dit tant de choses. Ne commencez pas, vous. « Moi ? Oui, vous. Oh, je ne parle pas de sa vertu, dit Madame Sophie, fort blessée de l'accentuation particulière donnée par son père au mot « vous » et de sa répétition affectée. Je dis qu'elle fera des expériences et voilà tout. Et quand elle ferait de la chimie, des armes et des roulettes de fauteuil, quand elle flûterait, quand elle tambourinerait, quand elle écraserait des clavecins ou raclerait le boyau, quel mal voyez-vous à cela? Je dis qu'elle va faire de la politique. Louis XV tressaillit. Étudier la philosophie, la théologie, et continuer les commentaires sur la bulle unigénitus, de sorte que, prise entre ses théories gouvernementales, ses systèmes métaphysiques et sa théologie, nous paraîtrons les inutiles de la famille, nous. Si cela conduit votre sœur en paradis, quel mal y voyez-vous ? Reprit Louis XV, assez frappé cependant du rapport qu'il y avait entre l'accusation de Graille et la diatribe politique dont Madame Louise avait chauffé sa sortie. Enviez-vous sa béatitude ? Ce serait le fait de bien mauvaise chrétienne. Oh, ma foi, non, dit Madame Victoire. Où elle va, je la laisse aller, seulement je ne la suis pas. Ni moi non plus, répondit Madame Adélaïde. Oh, moi non plus, dit Madame Sophie. D'ailleurs, elle nous détestait, dit Madame Victoire. Vous, dit Louis XV. Oui, nous, répondirent les deux autres sœurs. Vous verrez, dit Louis XV, qu'elle n'aura choisi le paradis que pour ne pas se rencontrer avec sa famille, cette pauvre Louise. Cette saillie fit rire médiocrement les trois sœurs. Madame Adélaïde, l'aînée des trois, rassemblait toute sa logique pour porter au roi un coup plus acéré que ceux qui venaient de glisser sur sa cuirasse. « Mesdames, dit-elle du ton pincé qui lui était particulier quand elle sortait de cette indolence qui lui avait fait donner par son père le nom de Locke, mesdames, vous n'avez pas trouvé ou vous n'avez pas osé dire au roi la véritable raison du départ de Madame Louise. « Allons bon, encore quelques noirceurs, reprit le roi. Allez, Locke, allez. » « Oh, sire, répondit celle-ci, je sais bien que je vous contrarierai peut-être un peu. » « Dites que vous l'espérez, ce sera plus juste. » Madame Adélaïde se mordit les lèvres. « Mais, ajouta-t-elle, je dirai la vérité. »« Bon, cela promet, la vérité. Guérissez-vous donc de dire ces choses-là. Est-ce que je la dis jamais, la vérité ? Et voyez, je ne m'en porte pas plus mal, Dieu merci. » Et Louis XV haussa les épaules. « Voyons, parlez, ma sœur, parlez !» dirent à l'envi les deux autres princesses, impatientes de savoir cette raison qui devait tant blesser le roi. « Bon petit cœur, grommela Louis XV, comme elles aiment leur père, voyez !» Et il se consola en songeant qu'il le leur rendait bien. Or, continua Madame Adélaïde, ce que notre sœur Louise redoutait le plus au monde, elle qui tenait tant à l'étiquette, c'était... « C'était, répéta Louis XV, voyons, achevez au moins, puisque vous voilà lancé. Eh bien, sire, c'était l'intrusion de nouveaux visages. » L'intrusion, avez-vous dit, fit le roi mécontent de ce début, parce qu'il voyait d'avance où il tendait, l'intrusion. Est-ce qu'il y a des intrus chez moi? Est-ce qu'on me force à recevoir qui je ne veux pas? C'était une façon assez adroite de changer absolument le sens de la conversation. Mais Madame Adélaïde était trop fin limier de malice pour se laisser dépister ainsi quand elle était sur la trace de quelque bonne méchanceté. J'ai mal dit, et ce n'est pas le mot propre, au lieu d'intrusion, j'aurais dû dire introduction. Ah ah, dit le roi, voilà déjà une amélioration. L'autre mot me gênait, je l'avoue, j'aime mieux introduction. Et cependant, sire, continua Madame Victoire, je crois que ce n'est pas encore là le véritable mot. Et quel est-il, voyons, c'est présentation. « Ah oui, » dirent les autres sœurs, se réunissant à leur aîné, « je crois que le voilà trouvé, cette fois. » Le roi se pinça les lèvres. « Ah, vous croyez, » dit-il. « Oui, » reprit Madame Adélaïde, « je dis donc que ma sœur craignait fort les nouvelles présentations. »« Eh bien, » fit le roi, qui désirait en finir tout de suite, après, « eh bien, mon père, elle aura eu peur, par conséquent, de voir arriver à la cour Madame la comtesse du Barry. » « Allons donc !» s'écria le roi avec un élan irrésistible de dépit. « Allons donc, dites le mot, et ne tournez pas si longtemps autour, cordieux comme vous nous lanternez, madame la vérité !»« Sire, répondit madame Adélaïde, si j'ai tant tardé à dire à votre majesté ce que je viens de lui dire, c'est que le respect m'a retenu, et que son ordre seul pouvait m'ouvrir la bouche sur un pareil sujet. » « Ah oui, avec cela que vous la tenez fermée, votre bouche, avec cela que vous ne bâillez pas, que vous ne parlez pas, que vous ne mordez pas. » « Il n'en est pas moins vrai, sire, continua Madame Adélaïde, que je crois avoir trouvé le véritable motif de la retraite de ma sœur. Eh bien, vous vous trompez. » « Oh, sire !» répétèrent ensemble, en hochant la tête de haut en bas, Madame Victoire et Madame Sophie. « Oh, sire, nous sommes bien certaines !» « Ouais, interrompit Louis XV, ni plus ni moins qu'un père de Molière. Ah, on se rallie à la même opinion, je le crois. J'ai la conspiration dans cette famille, il me semble. C'est donc pour cela que cette présentation ne peut avoir lieu. C'est donc pour cela que mes dames ne sont pas chez elles lorsqu'on veut leur faire visite. C'est donc pour cela qu'elles ne font point réponse aux placés ni aux demandes d'audience. À quel placé, à quelle demande d'audience ? Demanda Madame Adélaïde. « Eh, vous le savez bien, au placé de mademoiselle Jeanne Vaubernier, » dit Madame Sophie. « Non pas, aux demandes d'audience de mademoiselle Lange, » dit Madame Victoire. Le roi se leva furieux. Son œil, si calme et si doux d'ordinaire, lança un éclair assez peu rassurant pour les trois sœurs. Comme au reste, il n'y avait point dans le trio royal d'héroïne capable de soutenir la colère paternelle, toutes trois baissèrent le front sous la tempête. « Voilà, dit-il, pour me prouver que je ne me trompais point quand je disais que la meilleure des quatre était partie. « Sire, dit Madame Adélaïde, votre majesté nous traite mal, plus mal que ses chiens. Je le crois bien, mes chiens, quand j'arrive, ils me caressent. Mes chiens, voilà de véritables amis. Aussi, adieu, mesdames. Je vais voir Charlotte, belle-fille et Gredinet. Ah, pauvres bêtes, oui, je les aime, et je les aime surtout parce qu'elles ont cela de bon qu'elles n'aboient pas la vérité, elles. » Le roi sortit furieux. Mais il n'eut pas fait quatre pas dans l'antichambre qu'il entendit ses trois filles qui chantaient en chœur. Dans Paris, la grande ville, garçons, femmes et filles, ont tous le cœur débile, les pousses de hélas, ha 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 ha. La maîtresse de Blaise est très mal à son aise, 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 elle est sur le grabat, ha ha ha. C'était le premier couplet d'un vaudeville contre Madame du Barry, lequel courait les rues sous le nom de la belle bourbonnaise. Le roi fut tout près de revenir sur ses pas, et peut-être, mesdames, se fussent-elles assez mal trouvées de ce retour, mais il se retint et continua son chemin en criant pour ne pas entendre « Monsieur le capitaine des Levrettes, holà, monsieur le capitaine des Levrettes !» L'officier que l'on décorait de ce singulier titre accourut. « Qu'on ouvre le cabinet des chiens !» dit le roi. « Oh, sire !» s'écria l'officier en se jetant au devant de Louis XV, « que votre majesté ne fasse pas un pas de plus !» « Eh bien, qu'y a-t-il ? Voyons, dit le roi, s'arrêtant au seuil de la porte, sous laquelle passaient en sifflant les haleines des chiens qui sentaient leur maître. « Sire, dit l'officier, pardonnez à mon zèle, mais je ne puis permettre que le roi entre près des chiens. « Ah oui, dit le roi, je comprends, le cabinet n'est point en ordre, eh bien, faites sortir Gredinet. » « Sire, murmura l'officier, dont le visage exprima la consternation, « Gredinet n'a ni bu ni mangé depuis 2 jours, et l'on craint qu'il ne soit enragé. »« Oh, bien décidément !» s'écria Louis XV, « je suis le plus malheureux des hommes, Gredinet enragé, voilà qui mettrait le comble à mes chagrins !» L'officier des Levrettes crut devoir verser une larme pour animer la scène. Le roi tourna les talons et regagna son cabinet où l'attendait son valet de chambre. Celui-ci, en apercevant le visage bouleversé du roi, se dissimula dans l'embrasure d'une fenêtre. « Ah, je le vois bien !» murmura Louis XV sans faire attention à ce fidèle serviteur, qui n'était pas un homme pour le roi, et en marchant à grands pas dans son cabinet. « Ah, je le vois bien, monsieur de Choiseul se moque de moi. Le dauphin se regarde déjà comme un moitié maître et croit qu'il le sera tout à fait quand il aura fait asseoir sa petite Autrichienne sur le trône. » Louise même m'est bien durement, puisqu'elle me fait de la morale et qu'elle s'en va. Mes trois autres filles chantent des chansons où l'on m'appelle Blaise. Monsieur le comte de Provence traduit Lucrèce, monsieur le comte d'Artois court les ruelles, mes chiens deviennent tarragés et veulent me mordre. Décidément, il n'y a que cette pauvre comtesse qui m'aime. Au diable donc ceux qui veulent lui faire des plaisirs. Alors, avec une résolution désespérée, s'asseyant près de la table sur laquelle Louis XIV donnait sa signature, « Je comprends maintenant pourquoi tout le monde hâte autour de moi l'arrivée de Madame la Dauphine. On croit qu'elle n'a qu'à se montrer ici pour que je devienne son esclave ou que je sois dominé par sa famille. Ma foi, j'ai bien le temps de la voir, ma chère Bru. Maintenant le premier cérémonial, 3 jours de réception à Reims et trois jours de fête à Noyon, cela fera toujours 6 jours de gagné, 6 bons jours. » Le roi prit la plume et adressa lui-même à M. de Stainville l'ordre de s'arrêter 3 jours à Reims et 3 jours à Noyon. Puis, mandant le courrier de service, « Ventre à terre, dit-il, jusqu'à ce que vous ayez remis cet ordre à son adresse. » Puis, de la même plume, « Chère comtesse, écrivit-il, nous installons aujourd'hui Zamore dans son gouvernement. Je pars pour Marly. Ce soir, j'irai vous dire à Lucienne tout ce que je pense en ce moment. Signé La France. Tenez, Lebel, dit-il, allez porter cette lettre à la comtesse, et tenez-vous bien avec elle. C'est un conseil que je vous donne. » Le valet de chambre s'inclina et sortit.